Le pouvoir possède la radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off.
Mon père a été tué à la maison. Il a eu une balle explosive dans le ventre. Il n'a pas été tué sur le coup, il est mort plusieurs heures après, si ce que j'ai entendu dire est exact. Et ma mère était dans l'atelier, s'était réfugiée dans l'atelier avec mon frère et mes deux sœurs. Mon frère a voulu s'échapper, et ils l'ont ramené, ils l'ont fusillé. Et ils ont tué ma petite sœur de 6 mois d'une balle sous le menton. On fait sauter la boîte crânienne. Et après, ma sœur et ma mère ont été tuées d'une grenade.
Salut tout le monde, c'est le deuxième épisode de cette série sur le massacre de Maillé du 25 août 1944. À l'instant, la voix de Serge Martin, un extrait du documentaire « Le massacre oublié ». Serge Martin qui avait 10 ans ce 25 août 1944. Serge Martin, votre invité d'aujourd'hui.
Non, il faut plus voir ça. Il faut surtout essayer de faire comprendre aux jeunes. Il faut plus laisser monter ces extrémistes comme Hitler était, comme ces fanatiques là, faut pas laisser ces gens-là s'installer quoi. C'est ça ce qu'il faut dire. C'est ça ce qu'il faut faire comprendre aux jeunes. Mais sans parler avec de la haine ni rien du tout, il faut surtout pas parler. Moi je parle pas jamais de haine, jamais. Alors moi comme ils parlent maintenant les jeunes, moi j'aurais la haine et bien il dit si on pardonne pas, on cultive la haine.
Que soit la douleur et l'épreuve, il faut sortir du silence.
Moi je crois, mais ça se commande pas, ça, je pense pas que ça se commande.
Si vous vous souvenez du premier épisode de cette série, nous sommes allés à Maillé, région centre, sud de l'Indre-et-Loire, sur les lieux des crimes, avec Romain Taillefet de la Maison du Souvenir de Maillé. Nous avons notamment étudié la chronologie des faits de ce 25 août 44 qui voit l'assassinat de 124 civils, hommes, femmes et enfants. Crime de masse dans un très banal patelin d'une quelconque campagne de France. Et c'est justement ce qui est troublant, c'est que Maillé, cela pourrait être n'importe où. Ça pourrait très bien être près de chez vous. Comment, à partir d'un crime commis dans un bourg de campagne, comme il y en a des milliers dans ce pays, on parle finalement de choses universelles, de la guerre et de ses victimes, à Maillé comme à Kigali, Bagdad, Grozny, Sarajevo ou Santiago du Chili. On va aussi ici parler des mémoires d'un événement. Et on va aussi parler d'autre part de l'histoire. L'histoire, la science humaine qui travaille avec des sources, des faits, des archives. Et c'est pour ça qu'avec les copains historiens qui animent cette émission, on vous dit souvent qu'au devoir de mémoire émotionnel, subjectif, nous préférons le devoir d'histoire. Et à Maillé, comme ailleurs dans ce genre de situation, mémoire populaire et histoire empruntent des chemins parallèles, se croisent, divergent, se perdent dans 50 années de silence avant de réémerger, mais sous quelle forme ? À Maillé, cette épouvantable histoire n'est pas rentrée dans l'histoire. Et ce n'est pas seulement parce que ce drame a eu lieu le même jour que la libération de Paris, dont chaque année, depuis 70 ans, la commémoration nationale éclipse celle de Maillé. Avant de rentrer dans ces mémoires et dans cette histoire, une respiration musicale et comique, vous n'allez pas la voler, profitez-en un peu, car ce qui nous attend après n'est pas drôle.
Je suis un naturel docile et patient, je fais toujours plaisir aux gens. Quand un ami me dit j'ai par distraction laissé mes sous à la maison, veux-tu s'il te plaît me prêter quelques billets sans perdre le nord? Je lui réponds c'est d'accord. Attends-moi sous l'obélisque, attends-moi, attends-moi, attends-moi. Attends-moi, qu'est-ce que tu risques? Attends-moi, attends-moi, attends-moi. Si je n'y suis pas, ne t'en fais pas, fais le tour de la place à petit pas, prends un bol d'air en m'attendant, sois patient. Tourne autour de l'obélisque, tout autour, tout autour, tout autour. Tourne, tourne tourne comme un disque tout autour, tout autour, tout autour. Quand t'auras tourné 123 fois, recommence en partant du pied droit. Ne perds pas ton sang-froid, attends-moi. Rue des Pyramides, un monsieur trop pressé monte sur mes pieds sans s'excuser. Je l'enguirlande, il se retourne et je vois un gaillard de 2m23. Si ça te déplaît, t'as qu'à venir, petit pousset. Tiens, viens donc, tiens, je t'attends. Oui, j'ai dit, je reviendrai sûrement. Attends-moi sous l'obélisque. Attends-moi, attends-moi, attends-moi. Attends-moi, qu'est-ce que tu risques? Attends-moi, attends-moi, attends-moi. Si je n'y suis pas, ne t'en fais pas. Fais le tour de la place à petits pas. Prends un bol d'air en m'attendant. Sois patient. Tourne autour de l'obélisque. Tout autour, tout autour, tout autour. Tourne, tourne comme un disque. Tout autour, tout autour, tout autour. Quand t'auras tourné 123 fois, recommence en partant du pied droit. Ne perds pas ton sang-froid, attends-moi. Désireux de pratiquer l'équitation, je file l'achat d'un canasson. On saute à le premier obstacle en même temps, mais lui derrière et moi devant. Les quatre fers en l'air, je n'étais pas du tout fier. Lorsque ma jument me dit en se cavalant, attends-moi sous l'obélisque, attends-moi, attends-moi, attends-moi. Attends-moi, qu'est-ce que tu risques? Attends-moi, attends-moi, attends-moi. Si je n'y suis pas, ne t'en fous pas. Fais le tour de la place, ça peut. Petit pas, prends un bol d'air en m'attendant, sois patient. Tourne autour de l'obélisque, tout autour, tout autour, tout autour. Tourne, tourne comme un disque, tout autour, tout autour, tout autour. Quand t'auras tourné 123 fois, recommence en partant du pied droit. Ne perds pas ton sang-froid, attends-moi.
Attends-moi sous l'obélisque, George Milton en 1944. Une manière incongru, je vous l'accorde volontiers, de démarrer le deuxième volet de cette série sur le massacre de Maillet du 25 août 1944. Avant de rencontrer Serge Martin, rescapé de ce crime de guerre, vous allez d'abord faire la connaissance de Dominique. C'est mon plombier chauffagiste. Alors vous allez voir, c'est un hasard extraordinaire parce qu'en discutant un jour avec Dominique après des travaux chez moi, je lui dis comme ça que je travaille sur le massacre de Maillet, voilà, parce que je veux paraître pour un gars sérieux. Et voilà type que Dominique me répond que cette histoire le concerne directement.
Bah, ça me concerne complètement parce que j'ai mon grand-père qui est employé à la SNCF et qui a été fusillé, brûlé, torturé au massacre de Maillet. Maillet, pour nous, pour notre famille, c'était quand même un anniversaire, malheureusement, de mon grand-père. Et chaque année, on allait aux cérémonies.
Comment il s'appelait ton grand-père ?
Son nom, c'est Pierre Granet, contremaître à la SNCF. Comme il avait 56 ans et la retraite était à 55, donc il avait accepté de faire un supplément d'année d'une année.
Lui, il n'habitait pas Maillet.
Ah non, lui, il habitait à Tours. Alors lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il est parti très tôt, peut-être à l'époque à 2h, 3h du matin, je ne sais plus. Il a pris son vélo. Bah, sa mission, c'était d'aller porter les salaires aux employés.
Tours-Maillet, ça fait une bonne tirée quand même. Ça fait 50 bornes au moins.
Hein. Il a dû arriver tôt le matin, à 8h par exemple. Le village était déjà encerclé. Ce qu'on m'avait dit. Il est arrivé près de la voiture, au début du village. D'ailleurs, on va sur ce site-là.
À côté de là où il y avait le passage à niveau avant, où il y a le petit tunnel qui passe sous la voie maintenant.
C'est ça, tout à fait. Et là, ils avaient déjà tué ses ouvriers. Et lui, comme il est arrivé après, ils l'ont pris. Ils l'ont emmené sur la place du village, en face de l'église. Et là, ils les ont fusillés. Donc, il n'était pas mort. Il a été traîné jusqu'à l'église et c'est là qu'ils l'ont brûlé. Et après, il a été enterré à un moment donné à la fosse commune dans le cimetière. Et puis après, ma grand-mère l'a récupéré, a récupéré le corps et il a été enterré au cimetière La Salle à Tournoire. C'était vraiment les Allemands. C'était les Allemands jeunes qui remontaient de radeau. Ou des Alsaciens, on ne sait pas trop. Il a toujours été dit, et puis même quand on discutait avec des gens pendant la cérémonie, on nous a toujours dit que c'était l'équipe folle qui avait fait Oradour, qui remontait sur les batailles de Normandie, et qui était sous et qui était venu un matin encercler le village et massacrer les gens.
Qui disait ça ?
C'était les membres de la famille, c'était mon père et surtout ma grand-mère.
Ta grand-mère disait que c'était la même équipe folle que ceux qui avaient fait Oradour sur Glam.
Et surtout, c'était des jeunes.
Tu as dit aussi tout à l'heure, ça m'a fait dresser l'oreille, qu'ils étaient sous.
Ils ont vidé les bouteilles. Et je pense qu'ils ont dû faire plus au niveau de certaines personnes féminins. Et
là, tu parles de viol.
Certainement. Le matin, ils sont arrivés de bonne heure, ce que me racontait la grand-mère et les gens de Maillé à l'époque. Ils ont fait le massacre et ils sont installés en vidant les caves, bien s'amuser. Et d'ailleurs, on voit un petit peu dans le film de Noiret et puis Romy Schneider.
Dans Le Vieux Fusil.
On voit très bien en train de s'amuser. Donc il y a quand même cette image qui était de ma grand-mère qui était ressortie en disant ils sont amusés, ils ont tué les gens, ils ont enfermé dans l'église, ils ont brûlé les corps, parce que mon grand-père avait tout le côté gauche de brûlé.
Et ta grand-mère disait qu'ils avaient enfermé les gens dans l'église.
Ah, tout à fait. Il y a toute une partie, mon grand-père était dedans, ils ont enfermé dans l'église, et il y a eu quelques personnes, des enfants ou des personnes qui ont pu se sortir de l'église. Ça a été toujours raconté, puis ils en ont tué dans les maisons avant, et puis ils sont restés une bonne journée. Hein.
Toi, Dominique, cette histoire de Maillé, c'est essentiellement, tu disais, ton père et ta grand-mère.
Mais c'est surtout ma tante qui vivait avec ma grand-mère.
Eux, ils n'étaient pas à Maillé ce jour-là. On leur a à eux-mêmes raconté, et puis ils se sont documentés, ils ont lu.
Ah oui, tout à fait. Il y a eu les gens de la mairie de Tours et les gens du département qui ont été voir ma grand-mère. Elle a assisté à énormément de rendez-vous à l'époque pour justement essayer de comprendre ce qui s'était passé. Et puis aussi la SNCF. Hein, la SNCF est engagée, donc là-dessus, elle a eu forcément des aides hein, psychologiques et des aides financières, bien sûr.
Le témoignage de Dominique sur ce que sa grand-mère lui a raconté de l'assassinat de son grand-père est au cœur du sujet de cette émission. Sur un événement, il y a d'une part le travail des historiens et d'autre part les mémoires. Tout à fait respectable, car même si inexactes, ces mémoires racontent elles aussi des choses. Alors quelques détails ici. On voit dans cet exemple de mémoire populaire que le massacre de Maillé aurait été commis par les mêmes SS que ceux d'Oradour-sur-Glane le 10 juin 1944. C'est d'ailleurs ce que je croyais moi-même. Or, Oradour a été perpétré par la division Das Reich. Maillé-en-Touraine a été commis par un bataillon de réserve de la 17e division SS, Götz von Berlichingen, basé à Châtellerault. D'autre part, malgré ce qui a été raconté à Dominique, les gens à Maillé n'ont pas été assassinés dans l'église, comme ce fut le cas des femmes et des enfants à Oradour. Cette parole de Dominique est précieuse, on le remercie pour sa confiance, car ses mots nous montrent comment une mémoire peut se construire sur manque d'informations, vide, tabou, pudeur, douleur et mille autres choses qui coulent une chape de 50 ans de silence et d'oubli, et donc aussi de fantasmes. Pour Maillé, le grand public n'a pas su grand-chose pendant un demi-siècle. Ceux qui ont survécu n'en ont pas beaucoup parlé, même entre eux. Et les autres ont fait comme ils ont pu pour comprendre. Ils ont reconstruit leur histoire du massacre avec les références disponibles. La référence, c'est bien sûr Oradour, ou des éléments disparates comme le film Le Vieux Fusil avec Philippe Noiret. Pour remplir les béances de cette horreur du 25 août, la mémoire fait comme elle peut avec ce qu'elle a. On retrouve notre ami Dominique. T'avais quel âge la première fois que t'as entendu parler de cette histoire ?
Je l'ai toujours su. J'ai posé les questions où était mon grand-père, donc on me l'a tout de suite raconté, je pense, vers les 4-5 ans. Moi, je suis 52, en 61-62, donc il m'a emmené dès le départ là-bas, bien sûr. Et j'y tenais d'ailleurs.
Quand t'étais au lycée ou au collège, est-ce que c'était déjà arrivé de dire à un copain, tiens ?
Le problème, c'est que notre génération, on parlait pas beaucoup de ça. Sauf dans les familles où il y a eu vraiment un passé républicain, un passé, pardon, résistant. Les autres familles qui n'ont pas eu ce problème-là, on n'en parlait pratiquement jamais.
Il y a un abbé qui écrit un bouquin. Dès 1944.
Nous, on l'a lu très jeune. Moi, c'est un livre que j'ai dû lire à 11-12 ans.
Donc, et oui. Est-ce que tu es déjà retombé sur le massacre de Maillé ailleurs que dans ce livre ?
J'en ai pas entendu parler, mais par contre, j'ai été voir Oradour-sur-Glane, moi. Quand on laissait un village, le vélo, tout, c'est assez frappant. Mais non, il n'y a personne qui m'ont parlé de Maillé, non. Ça me revient, là. Pourquoi Maillé ? Parce qu'il y a eu une confusion avec Maillé dans la Sarthe. Où là, il y avait tout un réseau de résistants très important. Et autrement, il y a eu aussi des résistants de la dernière, du dernier mouvement qui ont fait exposer soit des voies ou dans un village. Alors là, il y a une confusion totalement entre le fait de confondre à l'époque de Maillet dans la Sarthe. Il serait trompé. C'est pas bien précis. Ma grand-mère me racontait, il y a eu aussi des étrangers, des Bulgares ou de l'Est d'Europe qui auraient saboté les voies. Donc,
Mais on te les a présentés comme des résistants, hein ? C'était des résistants, un maquis ?
Je n'ai pas le mémoire de dire que c'était des résistants, mais c'était des gens qui étaient contre les Allemands, tout à fait. Ouais. On m'a parlé des gens étrangers, l'Est d'Europe, qui auraient saboté et forcément qui auraient influencé le massacre de Maillet. C'est une histoire qu'on m'a racontée régulièrement.
Dominique, né en 1952, petit-fils d'une des 124 victimes du massacre de Maillet du 25 août 1944. Et pour en revenir à ces légendes de mystérieux Bulgares mugissant dans nos campagnes, sans doute aurez-vous pensé aux faciès cosmopolites que la propagande collaborationniste dénonçait, notamment avec l'affiche rouge.
Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes, noirs de barbe et de nuit, hirsutes, menaçants. L'affiche qui semblait une tache de sang, parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles. Y cherchait un effet de peur sur les passants. Nul ne semblait vous voir français de préférence. Les gens allaient sans yeux pour vous le jour durant. Mais à l'heure du couvre-feu, des doigts errants avaient écrit sous vos photos « Mort pour la France ».
Près de Chalon-sur-Saône, un train de marchandises a déraillé à la suite d'un acte de sabotage commis par un groupe terroriste. On compte 39 morts.
Je ne cesse de vous répéter que la France est régulièrement la seule victime d'une folie de destruction à laquelle tant de Français ont longtemps applaudi. Quand un sabotage fait sauter un transformateur, coupe un câble transporteur d'énergie, ce sont les ouvriers français qui chauffent, ce sont les ménagères françaises qui manquent d'électricité, ce sont les artisans français qui voient s'arrêter leurs outils. Et qu'en ces jours-ci, tournant votre commutateur, aucune lumière n'apparaîtra, car votre poste de radio demeurera silencieux. Revoyez en fermant les yeux les équipes de jeunes saboteurs enrôlées par Moscou, les spécialistes espagnols de la destruction scientifique rôdant la nuit, mitraillettes à l'épaule vers vos transformateurs et vos barrages. Et comprenez enfin que votre nouvelle épreuve fait peut-être le complaisant aveuglement que vous avez si longtemps pris pour la forme la plus confortable du patriotisme.
Vous êtes dans une émission consacrée au massacre de Maillet du 25 août 1944. Et vous allez maintenant accueillir Serge Martin, dont toute la famille a été assassinée ce jour-là. Serge qui nous raconte comment cette terrible histoire a été tue pendant plus d'un demi-siècle et comment elle a ressurgi. Bonjour Serge Martin.
Bonjour.
Merci à vous de nous accueillir ici à la maison du souvenir de Maillet. Elle n'a pas toujours existé, cette maison, elle est récente.
Non, non, elle existe depuis 2006.
De août 1944 jusqu'à 2006, il y a un bail quand même.
Oui, l'idée de créer cette maison s'est prise après 1994, c'est-à-dire après le 50e anniversaire du massacre de Maillet. Parce que en 94, il y a eu dans la mairie de Maillet une exposition sur le massacre qui a été réalisée par une personne des archives départementales à l'époque qui avait demandé si on avait des documents pour parfaire son exposition, des documents ou des objets récupérés au massacre. Or moi, comme la maison a été entièrement détruite, j'avais pas grand-chose, mais enfin j'ai apporté ce que j'avais. Et puis j'ai commencé à parler avec elle, et puis on était avec un copain d'école qui, à cette époque-là, était maire de la commune. en parlant comme ça, il nous a dit, mais il faut faire quelque chose, il faut faire, on est, vous êtes les derniers témoins à peu près crédibles. Moi, j'avais 10 ans au massacre, lui, il avait 12 ans. Il faut absolument faire quelque chose, soit des témoignages écrits, ou maintenant, c'est facile de faire des témoignages audiovisuels. Quand on est sorti, on a dit, oui, elle a certainement raison. Puis on en a reparlé avec elle, parce que l'exposition a duré pendant au moins 2 mois. Et puis là, elle nous a dit, mais pour faire quelque chose, il faut une entité, quoi. Il faudrait avoir une association. Et on n'avait rien à l'époque. Donc à partir de là, on a créé notre association. Et puis ensuite, on a parlé entre nous. Déjà, on a commencé à parler, parce qu'avant, on n'en parlait jamais. Et après, la commune avait acheté ces bâtiments-là, qui étaient un ancien café, une des rares maisons qui n'avait pas été détruite pour le massacre. Et là, il est venu l'idée de créer cette maison du souvenir. Mais ça a été long, le financement et tout ça, ça a été très long. Mais on y arrivait quand même.
Et aujourd'hui, c'est un lieu de transmission. Il y a des enfants qui viennent ici, enfin tout un tas de gens.
Oui, on a à peu près 3000 scolaires qui viennent chaque année. On les accompagne.
Paris outragé, Paris brisé, Paris balkanisé, et Paris libéré.
L'autre 25 août, c'est la libération de Paris, bien sûr, c'est une date que tout le monde connaît. C'est cette chape de silence qui tombe tout de suite après le drame. C'est-à-dire qu'il se passe des décennies sans qu'on en parle ou sans que vous en parliez entre vous.
50 ans. On était 50 ans sans pratiquement parler.
Mais même entre vous, entre habitants du village, entre gamins...
Je suis revenu en 57 dans le village. J'étais artisan, je rencontrais quand même beaucoup de monde. Eh bien, on n'en parlait pas. Quelques petites bribes comme ça, mais ça n'allait pas plus loin. Quelques mots.
Même avec les copains d'école
Pareil. Ah ben là, je crois bien que c'était encore pire. On se retrouvait pour le 25 août, ceux qui étaient disponibles pour venir à la cérémonie du 25 août, parce qu'il y a des gens qui sont éparpillés un peu partout maintenant. Ils essayaient de revenir pour le 25 août. On parlait d'avant, on parlait d'après, mais on ne parlait jamais de cette journée-là. Jamais on en parlait. Et c'était la journée de commémoration, mais on faisait la commémoration normalement, et après, c'était terminé. On n'en parlait pas. Ce qui peut paraître drôle, c'est que quand on a créé notre association, là, justement, il y a eu beaucoup de personnes tout spontanément qui sont venues adhérer à l'association, les survivants, les familles de victimes. On a commencé à parler entre nous, là, de ça, de cette journée-là. Et on s'est aperçu qu'on avait chacun notre histoire et on ne connaissait pas celle du voisin. Ça peut paraître impensable, mais c'était pourtant la vérité. Il y avait des choses qu'on ne connaissait pas, qu'on a appris qu'on ne connaissait pas.
Comment vous l'expliquez ? C'est de la pudeur ?
Je ne crois pas. Au début, c'était tellement dur, enfin, c'était tellement horrible, qu'on n'osait pas en parler. Moi, je sais que chez ma grand-mère, je ne pouvais pas en parler du tout. Parce que, bon, ma grand-mère pleurait tout de suite, puis elle ne voulait pas qu'on en parle. Et après, je crois qu'on s'est habitué comme ça. À la fin, c'était notre histoire, et on n'avait pas envie de la partager avec les autres. Je crois que c'était ça. Je dis toujours, bon, j'ai essayé de faire ma vie parce que j'ai eu la chance qu'on me la laisse d'abord. J'ai essayé de la construire du mieux possible, mais toujours avec ce souvenir, et je pense qu'on ne vit pas comme tout le monde.
Vous avez 10 ans. Qu'est-ce que vous faisiez chez vos grands-parents ce 25 août 44? Vous étiez en vacances?
Oui, j'étais en vacances depuis un certain temps chez mes grands-parents. Le 25 août, le matin... J'étais dans la cour, j'ai vu le canon qui a tiré sur Maillet passer à 10 mètres de moi, pas plus. Mais je ne savais pas où il allait, parce qu'à l'époque, comme il y avait des convois journellement sur la Nationale 10 et qu'on n'était pas loin de la Nationale 10, des convois allemands, Quelquefois, quand il y avait des menaces d'avions alliés, ils sortaient dans les petits chemins de campagne pour se camoufler. Alors, c'était pas rare qu'on voit des camions ou des... pas des canons, mais là, c'était certainement la première fois que j'en voyais venir là, quoi.
Parce que vos grands-parents habitaient la commune ?
En limite de commune. Dans une ferme, j'étais agriculteur.
Votre papa était maréchal ferrant, oui, de Maillet, et votre maman ?
Ma maman restait à la maison, quoi, à travailler. On était quatre enfants. Elle s'occupait de la maison, puis peut-être de la comptabilité de mon père.
Et donc vous, ce 25 août, vous voyez cette pièce d'artillerie qui passe ?
Puis après, bon, il y a eu les avions qui sont venus mitrailler un convoi sur la Nationale 10 et un train sur la voie ferrée à côté de Maillet. Et puis après, bien, on a entendu des tirs d'armes, mais on ne savait pas d'où ça venait. Parce qu'avec la proximité du camp militaire de Noate, ce n'était pas facile de savoir. On ne savait pas si c'était l'armée ou la résistance qui attaquait le camp militaire de Noate, qui était un camp français, mais occupé par les Allemands pendant toute la période de guerre. Des gens qui étaient mobilisés, comme les Français qui sont partis et qui ont été mobilisés en 40, c'était exactement la même chose, à qui on avait mis un uniforme, mais en fait, ce n'était pas leur métier de faire la guerre, c'était des gens qui auraient certainement préféré être chez eux que d'être là.
Vor der Kaserne, vor dem großen Tor, steht eine Laterne und steht sie noch davor. Dort wollen wir uns wiedersehen, bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marleen.
On voyait tous les jours des Allemands. Il y en a même qui logeaient dans un baraquement. Ils avaient construit un baraquement dans le bourg, là. Et au début, le commandant du camp logeait dans une famille, à Maillet. Quand chacun gardait ses distances, ça se passait relativement bien, quoi.
Concernant le jour du 25 août, comment est-ce que vous apprenez, vous ? Qui vous le dit ?
Personne ne me le dit, mais je l'ai entendu. Il y a un monsieur, je ne sais pas comment il l'a su, qui est venu le dire à ma grand-mère. J'ai entendu ce qu'il lui a dit. Qu'ils avaient massacré tout le monde à Maillet, et puis que ma famille avait été massacrée. Mais alors là, je crois que je me suis renfermé sur moi-même pour la raison bien simple, c'est que je ne voulais pas le croire. Je ne pouvais pas l'admettre, je ne voulais pas le croire. Et pour être sûr de qu'on ne me le dise pas, eh bien, j'en parlais pas, je parlais à personne. J'ai vu tous les déplacements et tout ça, ma grand-mère, tout. J'ai tout vu sans jamais rien dire, sans jamais dire un mot. J'ai même une tante qui a amené son fils qui est de ménage, qui l'a amené avec chez mes grands-parents pour peut-être me distraire un peu. Je lui ai parlé de rien. Lui, il devait le savoir, il m'en a pas parlé, mais moi, je lui en ai pas parlé. Absolument de rien. Je disais rien à personne. J'ai resté comme ça pendant plusieurs jours, sans rien dire. Parce que j'avais peur de la vérité. Je voulais pas le croire, mais d'un autre côté, j'avais peur de la vérité. Et il n'y a qu'au bout de quelques jours, au moins 8 jours, que j'ai voulu revenir. Là, je me suis décidé, j'ai dit à ma grand-mère et puis à mon oncle qui était là, parce que j'avais un oncle aussi, que je voulais revenir. Et puis, c'est là qu'ils m'ont dit ce qui s'était passé. C'est là que je l'ai su vraiment. Et puis, mon oncle m'a amené tout de suite. Quand on est rentré dans le village, j'ai vu toutes les maisons qui étaient incendiées, tout ça. Et puis quand je suis arrivé chez moi, qu'il n'y avait plus personne, plus rien, plus de maison, plus rien du tout. Surtout plus personne. Là, c'est... Je crois qu'il n'y a pas de mots dans le dictionnaire pour expliquer ça.
Vous avez perdu vos deux parents, un frère et deux sœurs. La maison familiale...
Elle a été détruite entièrement.
Brûlée.
Brûlée.
L'atelier de votre papa ?
L'atelier n'a pas été touché, lui. Il n'était pas adjacent à la maison. Tout le reste, un garage, des dépendances, tout a brûlé, sauf l'atelier. Mais j'ai pas vu grand-chose d'autre, hein. J'étais tellement... J'étais dans un état second, je crois.
Qu'est-ce que vous devenez alors ? Vous êtes orphelin ?
Oui. Comme j'étais chez mes grands-parents, j'y suis resté. Mes parents s'occupaient de moi après. Puis surtout un oncle, parce qu'après mon grand-père est décédé l'année suivante, alors. De ma grand-mère et puis un oncle qui s'occupait de moi.
Vous poursuivez vos études où ça ? Parce que l'école à Maillet, elle a brûlé aussi.
La classe a été faite dans les deux grandes salles. Une classe dans une des grandes salles du café, là où il y a la maison du souvenir. Et puis l'autre dans l'autre salle de café, la première année. Puis après la deuxième année, il y a eu un baraquement en bois. Mais moi, je ne suis pas revenu à Maillet. Mes grands-parents préféraient m'envoyer à l'école à Draché. Puis après, je suis allé au lycée à Tours. Lycée Descartes.
Au lycée Descartes.
Primaire, collège et puis lycée à l'époque.
Vous allez jusqu'où aux études ?
Jusqu'en troisième. Et puis après, je suis arrêté. Et puis j'ai appris le métier de mon père.
Et vous avez exercé où votre métier de maréchal ferrant ?
À Maillet.
À Maillet.
On n'était pas propriétaire des murs, on était locataire. Et mes grands-parents avaient vendu le fonds de maréchalerie à un monsieur. Et puis, il s'avérait qu'il voulait prendre sa retraite fin 56. Alors, il me l'a proposé. Si je voulais le reprendre, puis j'ai accepté, je l'ai repris. J'ai racheté.
C'est pas complètement par hasard que vous devenez maréchal ferrant.
Non. C'est une chose que je raconte pas souvent. Je ne sais pas que j'en ai honte, au contraire, mais le 15 août, c'est la dernière fois que je suis revenu chez mes parents, et je suis venu pour changer de chemisette, parce que j'avais sali la mienne, pour aller à Pouzet. Mes grands-parents étaient invités chez les parents de ma tante à Pouzet, puis ils voulaient m'emmener avec eux. Comme j'avais sali ma chemisette, ma grand-mère m'a envoyé la changer, prendre une propre chez moi. Et puis bon, je suis resté un petit peu avec eux. Ils étaient après déjeuner dehors, où il y avait un gros tilleul. Et ma mère avait fait un gâteau, alors j'ai mangé un morceau de gâteau avec eux. Et puis je discutais, je disais ce que je faisais avec mon grand-père. Quoi. Je faisais conduire les chevaux, il faisait tout ça. Quoi. Alors, et puis... Bizarrement, mon père dit à ma mère, tu vois, on a deux garçons, il y en a un qui veut être boucher, mon frère. Tu as toujours mis dans sa tête d'être boucher, lui. Et l'autre a dit, on en fera un paysan, j'en aurai pas un pour me succéder. Et là, je lui ai dit, si je travaillerai avec toi. Et j'ai jamais pu me défaire de cette promesse. Mon oncle voulait toujours que je continue mes études parce que je n'étais pas un mauvais élève. Non, j'ai dit non, je ne continuerai pas, j'apprendrai ce métier-là. Et tout le monde a tout fait pour me décourager, parce que c'est vrai que c'était un métier qui était dur, puis je n'étais pas tellement enflé, quoi.
Ça, vous avez pris depuis quand même, vous êtes un monsieur carré.
Oui, là, ça développe les épaules, ça, ce métier-là.
Et lors de cette dernière conversation avec votre papa, vous lui aviez dit ça pour lui faire plaisir ou vous le pensiez vraiment ?
Je pensais, et puis je l'ai fait.
Tranquility. s'en souvient-il, que fussent classés monuments historiques les ruines accusatrices dans lesquelles subsistent les berceaux calcinés d'Oradour-sur-Glace. Mais ne croyons pas surtout que le signe d'Oradour soit un signe isolé. Savez-vous que dans ce petit coin de terre de France, s'est finalement perpétré le 25 août 44 un crime d'exactement même sorte que celui d'Oradour, le massacre de toute la population de Maillé.
Vous êtes toujours en la compagnie de Serge Martin. 10 ans ce 25 août 1944, le jour où toute sa famille a été sauvagement assassinée par des SS d'un bataillon de réserve de la 17e division SS Götz von Berlichingen. Serge qui vous raconte l'histoire d'un orphelin de 10-11 ans qui, comme on reconstruit un village sur des ruines fumantes, va bâtir une vie d'homme sur les décombres de ce drame épouvantable. Vous êtes né en 1934 ? Vous avez fait votre régiment, Serge ?
Ben non, j'étais exempté parce que à l'époque c'était le début de la guerre d'Algérie qui ont fait. Mais il y avait deux hommes dans ma famille, dont mon frère et mon père. J'ai réussi à être exempté. Quand on a vécu ce qu'on a vécu là, le regard qu'on peut porter sur toutes les guerres sont sales. Hein. C'est quelque chose d'ignoble parce que la plupart du temps, c'est beaucoup plus les innocents qui payent.
Inter, actualité.
En fin de matinée à Alger, un attentat dont la seule relation fait horreur a été perpétré devant l'hôpital Maillot. Les victimes ont trouvé une mort épouvantable.
Pendant la guerre d'Algérie, est-ce que vous vous disiez « ouf, j'y échappe »
Non, je ne disais pas « ouf, j'y échappe » parce que j'avais plein de copains qui y étaient. Ça me gênait même un peu vis-à-vis d'eux, mais bon, c'était comme ça. Je n'allais pas m'engager pour le plaisir, surtout que je ne suis pas tellement militaire. J'avais pas l'esprit militaire du tout. Donc, non, mais ça n'empêche pas que je suivais de près, parce que je vous dis, j'ai plein de copains qui étaient en Algérie.
Et vous les avez vus revenir aussi ?
Oui, ben, j'en ai vu revenir, j'en ai vu qui ne sont pas revenus non plus. Enfin, si, qui sont revenus, mais pas vivants. Oh, ben, il y en a beaucoup qui avaient changé, hein. Il y en avait beaucoup, ça les avait traumatisés quand même, ça les avait pas... Bon, ça n'arrange rien, pas se faire d'illusions.
En Algérie, après la poussée du terrorisme, les opérations se poursuivent méthodiquement dans l'Aurès, devenu le centre d'action et de défense des nouveaux Fellahs. Divers accrochages dans les environs d'Aris et de Foumtoub ont mis entre les mains des parachutistes plusieurs groupes de hors-la-loi.
On le sait ou on le tait dans bien des familles françaises, des gamins envoyés faire la guerre en Algérie entre 1954 et 1962 seront eux aussi parfois amenés à commettre des crimes, des assassinats, des viols, sans pour autant porter un uniforme SS. Quand un peuple est victime, puis bourreau. Mais d'une guerre à l'autre, ce sont toujours les innocents qui trinquent. Et sans parler de pardon, quand on met un fusil dans les mains d'un gamin pour en faire un bourreau, en fait-on aussi une sorte de monstrueuse victime ?
Ils étaient habillés en capote. Ils avaient des capotes et ils étaient nus sous la bande d'SS, là, des gars qui avaient 17-18 ans, des jeunes. Bon, ils tiraient partout, n'importe où, ils étaient fous.
Ces SS, là, ces 80 hommes, la plupart d'entre eux, ce sont de jeunes gens, voire même de très jeunes gens, 17-18.
Dans le groupe qui était stationné à Châtellerault, il y en avait, je crois qu'il y avait 16 ans. Parce que j'ai vu les dates de naissance, moi, en Allemagne. Ils étaient conditionnés pour faire ce genre de choses, quoi.
Comment est-ce que vous jugez la responsabilité de ces jeunes gens endoctrinés ?
Je pense que leur âge, leur jeune âge, atténue un peu leur responsabilité parce que, et puis en plus, ils étaient commandés certainement par des gens plus adultes et plus aguerris. les cadres devaient déjà avoir fait la même chose dans les pays de l'Est, hein, très certainement. Donc ça atténue un peu leur responsabilité. Quoique je ne vais pas les excuser non plus, parce que c'est vraiment indigne ce qu'ils ont fait là. C'est bon. Ça dépasse les... Ah, j'arrive pas à trouver le mot. Ça dépasse l'humanité, quoi. Ça dépasse... C'est plus des êtres humains, quoi. C'est des sauvages, quoi.
Dans le jardin, là, il y avait 4 ou 5 Allemands qui faisaient un trou avec leur baïonnette. Ils dansaient autour, enfin, ils tournaient autour de ce trou comme les Sioux, si vous voulez. Ça rappelle un peu ça. Donc, quand on a dit qu'ils n'étaient pas normaux, c'est vrai qu'ils étaient drogués. Hein.
On l'avait effrayé de voir le visage de ces hommes. Ah, ça je les ai encore présents dans les yeux. Vous aviez des gens aux yeux exorbités, absolument. C'était curieux de les voir. Et ils passaient à toute pompe.
Les premiers qu'on a vus passer, ils avaient comme un genre d'écume de chaque côté de la bouche, là.
Le mot a été dit drogué. Vous pensez que ces gens-là étaient dans leur état normal ?
Oui, certainement, certainement. Oui, ils ont fait d'autres choses dans le coin, là. À Danger, ils ont tué 7 maquisards de sang-froid. Enfin, ils les ont exécutés. À Châtellerault, ils ont tué froidement 4 personnes qui venaient, soi-disant, leur réclamer de l'argent. Ils étaient capables à n'importe quoi. Non, puis écoutez, les gens sont libres de dire ce qu'ils veulent, moi ça me gêne pas du tout, mais ceux qui les ont vus ne peuvent pas parler. Parce que toutes les personnes qu'ils ont rencontrées, même les animaux, ils tuaient les animaux. Des fanatiques qui venaient là pour en découdre, pour tuer, pour massacrer tout le monde, pour faire disparaître un village entier. C'était ça, l'ordre qu'ils avaient, c'était tout. Alors ceux qui les ont vus, ils ne peuvent pas parler.
Moi, j'avais que 4 ans, bien sûr, mais quand ils sont arrivés, ils étaient pleins d'écume. Ça sortait de leur bouche, il y en avait sur leurs vêtements. C'était blanc d'écume. Ça, c'est une image qui est dure à comprendre quand on n'a que 4 ans et qui nous renverse notre lait, notre bol de lait en arrivant. C'était sacré, le bol de lait, renverser un bol de lait.
Ben, il y a quelques fois qu'on n'est pas d'accord, parce que moi, je trouve que il y a des gens, bon, ça c'est l'être humain, on ne peut pas discuter, qui exagèrent un peu, je pense, enfin exagèrent, qui racontent des choses qui ne sont pas vraies, quoi, mais bon, ça, on n'y peut rien. C'est l'être humain, ça. C'est déjà assez pire comme ça. C'est pas la peine d'exagérer. C'est assez terrible comme ça. Sans dire plus. C'est vrai qu'on aurait certainement dû en parler plus tôt. Bon, il y avait encore des témoins, disons, je vais pas être médisant, mais disons plus fiables, qui avaient un certain âge, qui avaient déjà une maturité, quoi.
Il y a une autre chose qui m'a stupéfait en regardant le documentaire. Un procès a lieu en 1952 à Bordeaux, où sont jugées d'ailleurs tout un tas d'affaires similaires. Je crois qu'Oradour est jugé aussi lors de ces sessions-là. Et les habitants de Maillet sont même un représentant, même le maire, ne sont même pas conviés au procès.
Personnellement, je connaissais le maire de l'époque et tout ça. Mais si ça se trouve, il est invité et puis... Il n'a pas répondu à l'invitation. C'est possible aussi, alors il ne faut pas non plus...
Il y a une zone d'ombre aussi.
Il y a une zone d'ombre, oui. On n'a plus personne pour nous... Le secrétaire de mairie pourrait le dire de l'époque, mais malheureusement... La seule chose qu'on peut regretter, c'est de ne pas avoir parlé plus tôt, parce qu'il y avait encore des gens qui étaient plus âgés que nous, qui auraient pu nous donner des renseignements. Non, il est trop tard. On ne peut plus regretter rien, parce que... Mais ça, je pense que ça ne se commande pas. Ça ne se commande pas quand on a subi un traumatisme comme ça. Je pense qu'on n'a pas envie de trop d'en parler. D'ailleurs, on le remarque avec les gens qui sont revenus des camps de concentration. Ils ont mis combien de temps à en parler ?
Si peut-être qu'on n'avait pas envie d'entendre ces gens-là non plus.
Non, mais attendez, c'est que maintenant, pour trois fois rien, il y a une cellule psychologique qui s'installe pour... Bon, je ne veux pas dire que c'est inutile, mais enfin, il y a des fois que c'est un petit peu poussé. Mais nous, à l'époque, on n'avait rien. Absolument rien, on est resté comme ça. Peut-être qu'on aurait eu des psychologues à l'époque qui nous auraient écoutés, qui nous auraient pris... Peut-être que ça nous aurait aidé. On s'est reconstruit tout seul. Encore moi, j'ai été bien encadré, mais il y a certainement d'autres qui n'ont pas été si bien. On était deux orphelins complets. Les autres avaient soit leur père, soit leur mère, le reste. Mais l'autre, c'était une fille qui avait 17 ans à l'époque. Elle commençait déjà à travailler. Bon, elle s'est retrouvée toute seule, sans plus personne. Elle n'avait plus de famille du tout, rien. Bon, ben, elle a continué à travailler. Mais bon, je suis sûr qu'elle a été moins bien que moi, quoi. Elle n'avait plus personne, elle n'avait plus de cadre. Il n'y avait plus personne pour l'aider, quoi. Avec une grand-mère qui a été tuée aussi au massacre. Et ses parents, ses frères et sœurs. Donc, c'est pas facile comme ça. Moi, je vous dis, j'ai eu cette chance-là d'être bien encadré.
Une autre chose qui m'a surpris encore dans le documentaire, l'affaire juridique rebondit, mais en Allemagne. C'est-à-dire qu'un procureur, complètement par hasard, tombe sur le documentaire et décide de lancer une procédure. En 2004, l'enquête reprend en Allemagne.
On l'a su bizarrement, parce qu'on était invité justement suite à ce documentaire. On était invité, M. Liaume, Sébastien Chevreau et moi. Et on était invité en Allemagne, à Stuttgart. Enfin, on était invité par des universitaires allemands pour voir ce documentaire sous-titré en allemand dans une grande salle à Stuttgart où il y avait beaucoup de monde. Et après le documentaire, on est passé derrière la table et on a répondu aux questions des gens qui étaient présents. Et à la fin, on a vu deux messieurs qui sont approchés de nous. C'était un commissaire de police avec son adjoint et qui nous ont demandé qu'est-ce qu'on attendait. On avait certainement dit dans le cadre de la discussion qu'on voudrait bien savoir quoi. Qui l'avait fait d'abord et pourquoi. Et ils ont demandé ce qu'on attendait. Alors, c'est moi qui ai répondu parce qu'on voudrait savoir qui l'avait fait parce qu'on ne connaissait pas du tout l'unité qui avait fait ça. C'était des Allemands, on savait, mais on ne savait pas qui c'était. Et en plus, pourquoi ? Pourquoi ils ont fait ça ? Pourquoi Maillet ? Pourquoi ? À partir de là, l'enquête est commencée. Parce que là, ils nous ont dit que c'était le procureur Mas qui les avait envoyés exprès pour voir. Et à partir de là, l'enquête est partie, est commencée. Moi, ce que je pense d'abord, c'est un geste, ça va peut-être être que symbolique, mais c'est quand même un beau geste de la part de la justice allemande. C'est quand même eux qui sont les responsables et c'est eux qui engagent la procédure. Un beau geste de leur part. C'est déjà un point positif pour nous déjà que ce soit reconnu et puis qu'on cherche à trouver les coupables et puis savoir pourquoi, quoi. Déjà, ils ont trouvé l'unité qui avait fait le massacre, quoi. Et puis après, ils ont retrouvé, parce que comme ces soldats étaient relativement jeunes de cette division-là, il y en a encore qui sont vivants, quoi. Ils en ont retrouvé. Ils en ont déjà auditionné, ils en ont encore, enfin, d'après ce qu'on peut savoir, quoi. Ils en ont encore auditionné, mais on n'a aucune preuve matérielle, donc il n'y a qu'un aveu de leur part pour qu'on arrive à savoir. Mais Santa Ana, le dossier est clos.
Santa Ana, c'est un massacre qui a eu lieu en Italie, Deuxième Guerre mondiale. Et la justice allemande, pareil, sur le massacre de Santa Ana, a lancé une procédure qui a été abandonnée il n'y a pas très longtemps.
Voilà. Dernièrement, oui. Oui, c'est la même chose. Ben, peut-être que nous, ça va faire pareil, quoi. Parce qu'il ne faut pas se faire trop d'illusions non plus. Et ils font le maximum, ça je le sais, parce que moi j'y suis allé en, en Allemagne. J'y suis allé dans les locaux de la police judiciaire allemande, là, à côté d'une petite ville à côté de Stuttgart. Et on m'a montré les dossiers. Il y en a un paquet de dossiers sur Maillet. Mais tant qu'il n'y en a pas un qui a avoué, on pourra.
Est-ce que vous avez gardé un ressentiment vis-à-vis des Allemands ?
Non, mais je dis souvent, je le dis d'ailleurs, parce qu'on me pose souvent la question, les enfants que je reçois ici me posent souvent la question, est-ce que vous avez pardonné ? Parce que dans le documentaire qu'on leur présente, il y a une fille qui dit, on ne peut pas pardonner, c'est certain qu'on ne peut pas pardonner à ceux qui l'ont fait, ça c'est impensable. Mais... les générations qui viennent derrière ne sont pas responsables. Donc, c'est pas en continuant, en cultivant la haine, puis en continuant à s'entre-déchirer, qu'on va arriver à faire quelque chose. Puis maintenant, si on veut construire l'Europe, il faut arrêter ça, quoi. Bon, je rencontre des Allemands, j'ai même des gens que je peux considérer comme des amis, les Allemands. Non, il ne faut plus voir ça. Il faut surtout essayer de faire comprendre aux jeunes. Il ne faut plus laisser monter ces extrémistes comme Hitler était, comme vraiment ces fanatiques-là. Il ne faut pas laisser ces gens-là s'installer, quoi. C'est ça ce qu'il faut dire. C'est ça ce qu'il faut faire comprendre aux jeunes. Mais sans parler avec de la haine ni rien du tout. Il ne faut surtout pas parler. Moi, je parle pas jamais de haine, jamais.
Vous écoutez la radio-télévision libre des mines communes. Nous sommes là pour vous, chers amis auditeurs, à votre service. Pendant la guerre, nous ne vous abandonnons pas. Nous continuons de combattre à côté.
Il est beaucoup question de radio dans cette série sur le massacre de Maillet. Celle que vous venez d'entendre s'appelait Radio Mille Collines, un sinistre instrument du génocide rwandais de 1994. On dit d'ailleurs que le savoir-faire français en guerre psychologique et en radio locale de proximité ne furent pas étrangers au phénomène Radio Mille Collines. Alors pourquoi une radio du Rwanda surgit-elle dans l'histoire d'un petit bled d'Indre-et-Loire ? Serge Martin, qui fait régulièrement visiter la Maison du Souvenir à des groupes scolaires, il va vous le dire, le rapport.
Ce qui me marque le plus souvent, c'est des jeunes qui viennent de l'étranger. On a eu ici un jeune Rwandais. Ses grands-parents, je crois, ont été massacrés au génocide rwandais. Et il était là, en troisième, dans une classe de troisième. Et quand il m'a entendu parler, il a parlé. Il m'a posé des questions, puis il m'a parlé après. Il m'a pas lâché le temps qu'on a visité la Maison du Souvenir. On a parlé tous les deux. Et ses professeurs étaient complètement abasourdis. Il n'avait jamais parlé, même les autres élèves, parce qu'il n'en avait jamais parlé. Et là, il a donné une bonne leçon aussi, parce qu'il y a un autre élève qui lui a dit, oh, moi, comme ils parlent maintenant, les jeunes, oh, moi, j'aurais la haine. Et bien, il dit, si on ne pardonne pas, on cultive la haine. On en a eu plusieurs, comme ça, des jeunes qui étaient... On a eu un Tchétchène aussi, on a eu... Quand on a deux classes... ensemble, bon, ça fait un quart, quoi. Et on en prend une ici, qui regarde le documentaire, et puis l'autre, l'exposition. Donc, première étape dans l'exposition, je leur présente le déroulement de la journée sur le plan. Et puis là, ils me posent des questions qu'ils veulent. Dès que le film est fini, je reviens là. Je suis souvent tout seul pour répondre à leurs questions. Eh bien, ceux qui ont vu le film, souvent, ils ne parlent pas beaucoup. Mais ils ont changé. Ils rentrent là, ils font le cirque dans le car, ils font ça, mais Quand ils sont rentrés là, c'est terminé. Je peux pas dire. Si l'autre jour j'ai élevé le ton sur un qui m'agaçait vraiment et derrière moi, qui écoutait pas ce que je disais, ça je m'en fous, il est pas obligé d'écouter, mais il faisait le cirque derrière moi. Alors bon, je l'ai remis à sa place, puis après c'était terminé, il était super gentil. Mais c'est rare quand j'élève le ton, c'est rare.
Vous savez faire en plus, vous, parce que après avoir été maréchal Ferrand, vous avez été enseignant.
C'était pas des gamins là, c'était des formations d'adultes. Là.
Ah oui, d'accord.
Oui. À partir de 18 ans, c'est vrai qu'ils étaient pour mieux. C'était pas beaucoup mieux quand même. Enfin, sinon, c'est pareil, là, j'ai jamais eu de problème. J'étais pas destiné à faire ça, et puis dans le coup, je l'ai fait parce que j'avais des problèmes de santé, de dos. Puis mon métier était trop dur. Et j'ai abandonné d'un seul coup. Puis j'ai trouvé cette voie-là dans un centre de formation pour adultes, machinisme agricole. Donc, j'étais bien. C'était un petit établissement. J'ai passé une belle fin de carrière parce que ça me plaisait beaucoup. Il me plaisait bien.
Dites-moi, heureusement que vous vous êtes donné quand même un coup de rein à la mémoire, si j'ose dire, avec cette maison du souvenir, parce que finalement, ça fonctionne. Vous avez mis les uns et les autres 50 ans à sortir de ce silence-là, mais vous avez bien fait.
Oui, mais de toute façon, c'était indispensable, parce que souvent, moi, quand j'habitais à côté de l'église, bon, il y avait eu un vol dans l'église, on avait changé la serrure, et puis j'avais la clé. Et le matin, j'étais juste à côté, j'ouvrais la porte de l'église, puis des fois j'oubliais. Et quand il y avait des gens qui venaient pour visiter, puis ils venaient à mon atelier, l'église est fermée. Et je vais vous l'ouvrir, puis bon, des fois on parlait un petit peu quand même. Et puis ces gens ils me disaient, ah ben, on a vu un panneau sur la Nationale 10, Maillet Village Martyr, mais il n'y a rien à voir. Ils s'attendaient toujours, fait le parallèle avec Radour, ils s'attendaient à voir des ruines. Alors je pense que la Maison du Souvenir était indispensable. Et le temps que je pourrais le faire, je vais essayer de le faire. Ce qui est important, c'est de transmettre aux jeunes générations, quoi. Et ce qui me fait plaisir, c'est que dans la plupart des cas, ils sont vraiment intéressés, ils sont attentifs et tout. C'est ça ce qui me fait plaisir. Et quand je vais quelque part, quoi, je rencontre des jeunes qui viennent me trouver. Tiens, on a été à Maillet, on vous reconnaît. Ça me fait plaisir, c'est que je les ai marqués un peu.
Et voilà les amis, c'est la fin du deuxième volet de cette série sur le massacre de Maillet. Merci à Serge Martin de la Maison du Souvenir, où vous serez fort bien accueillis. Vous y trouverez des films, des expositions. Prochain épisode de cette série avec l'historien Sébastien Chevreau, l'un des artisans de la Maison du Souvenir, l'universitaire qui vous expliquera, entre autres choses, comment il a mené une véritable enquête policière et historique pour faire la lumière sur le crime de Maillet. Salut !